Frères et sœurs, c'est un peu tremblant que, viens là, il y a deux choses qui se sont passées depuis le début du culte. Comme c'est moi qui ai apporté le message ce matin, comme je le fais d'habitude, j'ai donné à celui qui est à la vidéo pour donner un titre au message. Et quand Yves a pris Ésaïe 40, je crois, et il a pris ce verset, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, et il parlait de, je crois c'est Gabin qui disait, je sais. Et ça m'a fait tilt parce que le titre du message, Nance pourrait vous le confirmer, je lui ai donné tout à l'heure, le titre de mon message ce matin c'est, je sais une chose. Alors déjà ça m'a un peu interpellé et tandis que Yves, sur ce chant, Dieu est un Dieu puissant, j'avais vraiment exactement la même pensée. J'allais prendre le micro pour dire, ne plaisantons pas. Frères et sœurs, ce n'est pas facile, mais il y a des choses qui se passent, qui ne devraient pas se passer des fois. Dieu, il est puissant, il est juste, miséricordieux, compatissant, riche en bonté, mais il ne tient pas le pécheur pour innocent parce que il a prévu ce qu'il fallait. Alors, je vous invite, et je pense que c'est bien qu'on va faire comme ça. Je vous invite à lire dans Jean 9. Nous allons lire le chapitre Jean 9, sans doute un épisode que vous connaissez bien. Je partagerai quelques pensées, je crois, qui nous aideront là-dessus. Jésus vit, Jean 9, Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, se lava et s'en retourna, voyant clair. » Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je recouvrai la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents lui dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. » Je commencerai dans un premier temps ma méditation à partir du verset 6 sur la description de cette rencontre, vraiment de la rencontre entre Jésus et cet aveugle né. Je relis. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va ! » Et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà le récit en deux versets. C'est un récit lapidaire, on peut dire. En deux versets, la scène qui va déclencher tout cet enseignement riche de Jésus est décrite. Et déjà, on a un enseignement. Dieu préfère l'obéissance simple au sacrifice. Jésus lui dit, va et lave-toi. Il y alla et se lava. Résultat, il s'en retourna, voyant clair. Le psaume 25 au verset 8 nous rappelle, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. On a un autre exemple d'un homme à qui il a été demandé de se laver, Naaman. Il a eu plus de mal. Naaman était... il a fait de la résistance un peu, Naaman. Une petite fille pourtant d'un peuple détenu, déporté finalement, c'est par une petite fille qu'il avait su que le chemin lui avait été montré. Va là-bas, au pays, et si tu vois le prophète, disait la petite fille, Naaman sera guéri. Alors il avait certes obéi, mais il était venu avec tout son apparat, de chef des armées quand même, excusez du peu. Et il s'attendait manifestement à ce que le prophète allait sortir en grande pompe. Pas du tout. Le prophète envoie dire au chef des armées, d'une armée d'occupation finalement, « Va te laver cette fois dans le fleuve. » Et il y a la révolte qui vient chez Naaman. On voit, et c'est finalement ses serviteurs qui vont lui dire ceci. Mon père, dit un serviteur, osez le serviteur quand même, hein. Au chef des armées, il lui dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Vous voyez là le contraste. Cet aveugle, oui, lui, il sait une chose avant de savoir ce qu'il va savoir plus tard. Il sait une chose, c'est qu'il n'est rien, il est aveugle, il reconnaît sa situation et simplement. Cet aveugle-né, on est bien d'accord, c'est la situation de tout homme qui n'a pas été illuminé par Christ. Nous sommes nés aveugles. C'est ainsi. C'est une... Oui, le Seigneur est... Il est le roi, il est puissant. Et c'est vrai que... J'ose me marquer, il est puissant. On a souvent une incohérence. On proclame qu'il est puissant. Mais alors qu'il y a des choses que l'on sait, on n'obéit pas. On ne peut pas aller plus loin. Et je vais illustrer ça quand on va voir la révélation de cet homme. C'est un passage extraordinaire. On a, je pense, en quelques heures finalement. Il y a la rencontre avec Jésus. Ensuite, il y a un tas de gens qui vont lui poser des questions. Mais grosso modo, en quelques heures, voilà un homme qui passe des ténèbres à un vrai disciple de Christ. C'est impressionnant. Comme quoi, des fois, les choses peuvent aller très vite. Avec l'obéissance, on avance à pas de géant. Et cet homme a avancé à pas de géant. Au verset 17, regardez la révélation progressive qu'il a. Il ne va pas au-delà de ce qu'il a saisi. Verset 17, l'entourage l'interroge. Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit. Non, avant ça, pardon. Au verset 11, l'entourage l'interroge, il lui dit, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme. Pour l'instant, cet homme-là, l'aveugle, a rencontré un homme. L'homme qu'on appelle, c'est même pas lui, qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il témoigne. Déjà, il témoigne. Il ne va pas au-delà de ce qu'il a vécu. Il témoigne. Il dit voilà. Il ne se met pas en avant. Il rapporte ce qui s'est passé. Pour l'instant, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, j'ai obéi et je vois. C'est tout. Au verset 17, de nouveau, là, il est devant les religieux, ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » C'est un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. La révélation augmente, mais il ne va pas au-delà. Et puis, je reviendrai sur tout cela, au verset 33, il est amené à dire, lorsqu'on l'interviewe, on le harcèle de questions, il finit par dire, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né, si cet homme ne venait pas de Dieu, il confirme son témoignage, il ne pourrait rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Voilà cet homme aveugle-né, qui n'a aucune culture, qui est rejeté, qui est, etc., il vient de vivre quelque chose d'extraordinaire et il continue de témoigner. Et il avance. Et il avance très vite. Et au verset 35 à 38, lorsque quelqu'un obéit à ce que Dieu fait dans sa vie, Dieu de nouveau va venir. Et là, c'est Jésus, appris qu'il l'avait chassé. On recevait cette semaine un frère de Portes Ouvertes qui nous parlait de la persécution. Eh bien, voilà cet homme qui était aveugle, qui voit, tout le monde devrait se réjouir. Eh bien non, on le harcèle de questions. Et déjà, il est persécuté, et déjà, il va être chassé de la synagogue. moins de 24 heures après sa conversion. Mais Jésus, lui dit, Jésus apprit qu'il avait été chassé, l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il lui pose la question fondamentale. Et regardez cet homme, il pourrait dire, « Oui, mais qui est-il ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et là, Jésus se dévoile, se révèle. Tu l'as vu. Et cet homme, je crois, Seigneur, il se prosterna devant lui. Ça me fait penser, lui, au ministre d'Éthiopie, le ministre éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis ? Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ? Il y a dans l'attitude de cet homme, une véritable humilité. Pas une humilité religieuse qui a conscience d'être très humble. Il est simple. Simple de la simplicité qui est en Jésus-Christ. Et quand on a cette simplicité, Jésus est simple aussi. Jésus est simple. Il veut se dévoiler, se révéler. Frères et sœurs, pour chacun de nous, peut-être y a-t-il parmi nous, nous sommes tous encore aveugles. Mais enfin, il y a eu des révélations initiales. Il y a eu les illuminations, on en a parlé cette semaine. Les cœurs d'un certain nombre d'entre nous ont été illuminés à la présence de Dieu. Mais Dieu n'illumine pas qu'une fois, il est lumière en permanence. Et il continue d'éclairer. Et le fonctionnement est toujours le même. Seigneur, s'il y a encore des zones de ténèbres, et il y en a encore, tu viens éclairer, j'accepte. Bon, c'est sûr que l'aveugle de naissance, il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas aveugle. On voit la différence, on verra la différence avec les pharisiens. Il était aveugle, il reconnaît. Et c'est très très simple et il avance très vite. Je dirais deux enseignements. L'obéissance simple. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Va et lave-toi. Ne nous demande pas des choses impossibles. Deuxièmement, garde ce que tu as reçu. Et là, je voudrais qu'on lise dans Apocalypse 3, verset 8, la lettre à l'église de Philadelphie, 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens pas ce que tu n'as pas. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Vous allez dire, quel rapport avec cet homme qui était aveugle-né, qui est tout juste converti ? Eh bien, cet homme garde ce qu'il a reçu. Garde ce qu'il a reçu. Il m'a dit, va à la fontaine, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, et je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et que je vois. Il ne sait pas grand-chose, mais il sait une chose, et il garde. Et nous allons voir comment, avec cette simple position qu'il garde. J'étais aveugle, et je vois. Tout le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas si cet homme était pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, et que je vois. Eh bien, cet homme, il a l'esprit de l'église de Philadelphie. Tu as peu de puissance, tu es un aveugle, tu es un misérable, mais tu as gardé ce que tu as. Il faut que nous gardions ce que tu as. Nous avons un appel à revenir à notre premier amour. Souvenons-nous comment le Seigneur est venu, comment il a parlé au début. Nous étions aveugles. N'abandonnons pas cela. Et si nous avons abandonné, si nous sommes éloignés, si nous avons compliqué les affaires, si nous avons religiosité, rendu religieux, tout un tas de choses. Seigneur, reviens. ce que je sais. Et je le sais. J'étais aveugle. C'est vraiment cette phrase qui venait au milieu de plein de difficultés. Et c'est comme ça que je suis venu à ce texte. Je vais le relire. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et cela, le Seigneur nous éclaire de plus en plus. Ceux qui obéissent, il ouvre une porte suivante. Il met une porte, il ouvre une porte que personne ne pourra fermer à ceux qui lui obéissent et qui gardent ce qu'ils ont reçu. « J'ai pas reçu grand-chose, Jésus. » Tu étais aveugle, tu vois. Garde cela. Dieu conduit ceux qui acceptent de l'être. Dieu conduit ceux qui acceptent de l'être. Ceux qui pensent pouvoir se conduire seuls, eh bien écoutez, ils conduisent seuls. Pour ma part, j'ai essayé longtemps de conduire ma vie seule. Cata. Mais celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Dieu conduit ceux qui acceptent de l'être. L'aveugle, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas lui qui mène la danse. Il est promené, soumis à un feu de questions, au milieu de personnages importants et extrêmement instruits. Des choses religieuses. Il ne mène pas les affaires, il ne sait rien. D'abord, ceux qui l'entourent, ils ont constaté, mais alors une chose qui est manifeste, cet homme était aveugle, maintenant il voit, et ça se voit quand un aveugle voit. Il marche, il se déplace, il bute plus partout. Eh bien ça discute déjà. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, ben voyons. Et lui-même disait c'est moi. Il disait pas grand-chose, il disait c'est moi. Ils lui dirent donc comment les yeux ont-ils été ouverts, il répondit, son témoignage tout simple. Ça ne dure pas 2 heures. Alors après, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais, ça il ne sait pas. Alors il ne sait pas, comme il ne sait pas, ben, il dit, je ne sais pas. Alors maintenant, on le mène vers les religieux, les pharisiens, des gens instruits. Et là, il y a un nouveau problème qui se passe, et qui va amener la persécution, rendre la vue un jour de sabbat. Au passage, cette histoire de boue, moi je... Écoutez, je ne sais pas. La boue, j'ai regardé. Le terme boue, c'est vraiment, vraiment de la boue, de la vase. Et vous vous souvenez qu'au début du texte, il dit, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Et Jésus, et je reviendrai là-dessus, il dit, c'est pas là la question. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je pense vraiment que Jésus aussi montre que, oui, c'est bien le péché qui nous bouche la vue. Hein, la boue du péché. Je ne sais pas. Je dis pas, j'ai reçu de Dieu. Mais il me semble qu'il y a ça. Vous voyez, il utilise. Il y a eu plein d'autres guérisons d'aveugles. Enfin, il y en a eu plusieurs qui nous sont rapportées. Mais là, je crois que il y a Jésus, lui, il sert de l'aveugle pour nous amener des choses très importantes sur le poids du péché. La boue, et il montre bien, il manifeste bien qu'il faut que ce soit lavé, quoi. Hein, tout simplement. Alors, vous voyez, cet homme, je reviens à mon propos, c'est pas du tout lui qui mène la danse. Il n'a pas préparé ce parcours-là, il ne s'attendait pas à ça. Et il est plutôt ballotté, on le pilonne de questions, maintenant le voilà devant les religieux. Vous imaginez un homme, un aveugle, ça veut dire un mendiant. Hein. Ça veut dire quelqu'un qui était archi-rejeté, qui se trouve maintenant devant les responsables religieux, qui vont lui poser la même chose. Ils ont déjà décrété, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y a eu division parmi eux. Là, il y a des débats de doctrine qui ont dû commencer là. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu quand même? Pour l'instant, il était là, il attendait que les discussions se terminent entre eux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Donc, vous voyez, Il y a une incrédulité. Il y a un truc tout simple qui vient de se passer. Bon, extraordinaire, hein. Il dit c'est ça, mais non, ça discute. L'incrédulité. Et remettez-vous à la place de cet aveugle. On aurait peut-être été impressionné devant ce pouvoir religieux. On aurait peut-être essayé d'expliquer, de dire, excusez, ben moi je sais rien, etc. Il ose dire quand même, il avance dans sa foi. Je voudrais souligner là que nous ne menons pas les affaires de notre vie, mais Dieu nous conduit dans des circonstances qui vont nous amener à être des témoins. Nous ne choisissons pas les circonstances dans lesquelles nous avons à témoigner. Et à travers ces circonstances, Dieu accroît la révélation et augmente la foi. Cet aveugle né, au début, il va juste donner son récit, et là, il va oser dire quand même, et on peut dire que c'est le Saint-Esprit qui le pousse, c'est un prophète. Au début, un homme, qu'on appelle Jésus, et là, il dit, c'est un prophète. À travers des circonstances contraires, des circonstances humiliantes, où il est ballotté devant un Sanhédrin qui discute de doctrine en l'ignorant, mais lui, il proclame, c'est un prophète. Et ça continue. Autre pression maintenant, on fait venir ses parents. Ses parents qui vont être dans la crainte. Ça nous est dit. Ses parents disent, écoutez, oui, c'est notre fils. Il était aveugle, il voit, on ne sait pas comment. Hein. Eux, ils ne se lancent pas à dire, c'est peut-être Jésus. L'homme. Non, ils ne se lancent pas là-dedans. Et ça nous est expliqué. Il y avait une puissance religieuse, un joug religieux qui pesait sur le peuple. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, nous y voilà, il serait exclu de la synagogue. Et c'est ce qui va se produire. Mais notre homme, il tient bon. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même, et les pharisiens reviennent à la charge. Nous sommes dans la persécution, là. Ils reviennent à la charge. Ils vont user de leur pouvoir religieux sur un homme misérable. Et lui, mais le Seigneur est avec lui. Et regardez les paroles de la sagesse qui va venir sur cet homme. Il leur répondit, puisqu'il leur a déjà posé la question, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » Eh bien écoutez, cet homme-là, il est converti d'il y a 3 heures. Cette autorité, d'où vient-il ? D'où vient-elle ? De Dieu. Il n'a pas fait, il n'a pas un enseignement théologique. Mais ce qu'il a, il le garde. Et il répond simplement, en respect, il respecte, mais il leur dit quand même, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Et là, il va plus loin, et ce n'est pas de l'humour. Voulez-vous devenir ses disciples ? Et vous voyez, Dieu est puissant. Il va se servir d'un homme misérable, mais qu'il a éclairé pour encore dévoiler le cœur de ceux qu'il cherche aussi. Il cherche aussi les religieux avec toute leur instruction. Il les cherche aussi, il les aime aussi. Et il va utiliser simplement cet homme pour dévoiler leur cœur partagé. Leur cœur qui a conçu tout un tas de trucs. Il va les dévoiler. Nous sommes disciples de Moïse. Et celui-là, nous ne savons pas. Donc, puisque nous n'avons pas compris intellectuellement, nous rejetons. Quand j'entends cet homme, comment il répond, ça me fait penser à Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Elle est assaisonnée de sel. Voulez-vous devenir ses disciples aussi ? C'est pas de la moquerie. Mais... afin que vous sachiez répondre. Comment il faut répondre à chacun. En quelques heures, cet homme est passé des ténèbres à une affirmation de sa foi, respectueux des autorités religieuses, qui pourtant l'insultent. La peur aurait pu le saisir, mais il sait une chose. L'enseignement, nous tirons de cela. C'est Dieu qui suscite la foi, et l'amène à la perfection. Et ça peut aller vite. Mais ça ira quand même jusqu'au bout. Il fait concourir toutes les circonstances au bien de ceux qu'il aime. Autre enseignement Nous ne programmerons pas notre parcours, notre marche chrétienne, comme une carrière, une place dans la vie sociale et professionnelle. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui menons notre vie, c'est Christ. Si du moins Christ habite en vous. C'est Christ. Et acceptons que toute circonstance, pas toute sauf une, toute circonstance est permise par Dieu. Lamentation 3, qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel ne l'ait ordonnée ? Et je pense qu'on peut le prendre dans les deux sens. Il a donné des ordres et il l'a mis dans un certain ordre dans notre vie. Les choses n'arrivent pas dans n'importe quel ordre. Nous ne programmerons pas notre parcours, notre marche chrétienne. Il n'y a pas de carrière chrétienne. Le monde a ses schémas de développement personnel, etc. Il n'y a pas de carrière chrétienne. Il y a l'entrée, comme nous l'avons souligné la semaine dernière. Nous ne sommes pas sauvés seuls avec une petite vie chrétienne. Nous sommes sauvés et intégrés dans le corps où le Christ va nous mettre à notre place, à la place qu'il a prévue de toute éternité avant que les temps aient commencé. Il nous mettra à notre place et il va permettre toutes les circonstances pour nous conduire. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Ses pensées et ses voies sont au-dessus de nos pensées et de nos voies. Allez, arrêtons tout de suite. On ne peut pas concevoir, et je vais encore vous le démontrer, cet aveugle de naissance n'est pour rien dans ce qui démarre là dans sa vie. Je rappelle le début de mon texte et j'y reviens. Jésus vit, c'est Jésus qui a vu en passant un homme aveugle de naissance. Nous avons d'autres passages où c'est l'aveugle qui dit « Seigneur, sauve-moi ». Mais là, c'est Jésus. Nous sommes dans un autre contexte. Cet homme est un instrument, j'allais dire, que Dieu a choisi pour manifester sa gloire au monde. Il le dit. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. » Il ne nie pas ça, il dit pour l'instant, ce n'est pas ça le sujet, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est donc Jésus qui a vu cet homme en passant, ça nous parle de la souveraineté de Dieu. Nous ne sommes pour rien dans notre salut, c'est lui qui est venu nous chercher, qui nous a vus. Le but, manifester les œuvres de Dieu. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus lui connaît son appel et son mandat. Ce qui se passe là, c'est l'exécution du mandat qui a été donné à Jésus et que Jésus a proclamé en Luc 4 en reprenant Ésaïe 61. Et nous allons le lire. Après avoir été tenté au désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il se rend à Nazareth, à la synagogue, et là on lui présente le livre. Il trouve l'endroit où il était écrit dans Luc 4, verset 18, en fait c'est Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer... » Il y a cinq choses qui sont données. « Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça veut dire que pour guérir, les cœurs endurcis devront être brisés. Proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, il accomplit son mandat. Jésus nous dit, je suis venu accomplir mon mandat, et là j'accomplis le mandat numéro 4, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer à libre les opprimés. Jésus obéit à son Père, il a reçu un mandat, il l'exécute et nous sommes appelés à la même chose. La question est de bien connaître le mandat que nous avons reçu. Dieu est souverain, il va prendre Paul, il va dire à Ananias, va, cet homme je l'ai choisi et je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Et Paul connaît son mandat. dans 24, il a eu un mandat en prolongation de celui de Jésus. Dans Actes, je crois, c'est dans Actes 26. Je vais le lire avec vous. Dans Actes 26, au verset 17, Dieu lui a parlé. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, au milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Le mandat de Jésus se prolonge à travers les apôtres et à travers son Église au fil des temps pour ceux qui connaissent leur mandat. Et on connaît son mandat quand on obéit et qu'on accepte les circonstances que Dieu met pour nous guider. Et je peux vous dire qu'il nous guide très, très, très bien. Très, très, très bien. Nous ne pouvons pas piloter notre vie par nous-mêmes. Nous n'avons pas le choix. Dieu est puissant. Il est puissant. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes de quitter une vie professionnelle. Nous ne pouvons pas décider nous-mêmes de changer d'habitation. J'allais dire de changer de voiture. On ne peut pas décider nous-mêmes. Dieu va permettre toutes circonstances. Attention à cela. Des fois, un zèle qui est charnel, acceptons. C'est difficile, je vais vous dire, c'est douloureux. Mais franchement, c'est glorieux. Quand on accepte. Mais je veux faire ça, je veux servir comme ci, comme ça. Acceptons. Le Seigneur va placer toutes circonstances. Il n'a aucun problème pour faire sortir quelqu'un à un moment d'une vie professionnelle, etc., s'il appelle cet homme à le servir à plein temps. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et je peux vous dire qu'il va faire concourir toutes circonstances. Nous ne pouvons pas, nous voulons te suivre, nous pouvons suivre le Seigneur. Nous ne pouvons pas le précéder. Et c'est glorieux de le suivre. N'oublions pas les pharisiens. Attention, on a vite fait de... Ça, c'est pas nous. Bon. Il y a un débat au sein des pharisiens. Je disais, Dieu se sert de toutes circonstances. Cet aveugle qui vient de recouvrer la vue amène un bazar au sein du conseil des pharisiens. Deux attitudes. Les uns qui disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. Les autres, d'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle? Il y a eu d'autres occasions où il y a eu du débat au sein du Sanhédrin. Quand on voulait condamner Jésus, il y a Gamaliel qui a dit, mais attendez, ce serait peut-être bien de l'entendre un peu. Hein? Dieu se sert, il travaille à plein de niveaux avec une seule circonstance. Il travaille des dizaines de cœurs. Et ça, des fois, on a du mal, nous. Parce qu'on voudrait bien tout intégrer. On ne peut pas tout intégrer. Cela nous concerne. Des positions de doctrine, des fois, qui se dressent et provoquent des divisions sans fin. Car derrière cela, il y a l'orgueil. Je prends un point. Eh bien, moi, je suis plus que toi encore sur ce point-là. Et puis d'ultra en ultra. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train d'annoncer un espèce de compromis mou. Mais tout le conseil de Dieu, il faut nous humilier et prendre tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Il n'y a pas de sujet de se glorifier. Sinon, on va finir par s'appeler là. La colonne de la vérité. On va dénoncer. Puis après, on peut encore prendre un autre verset. Et puis, pilonner. Lorsque nous voyons venir en nous ces situations où on va se mettre à discuter les points de doctrine, oui, mais là, machin, là, ça, c'est machin, moi, j'ai vécu, je suis dans telle dénomination, etc. Attendez, hein, vous connaissez mes positions, je ne suis pas dans un espèce de panthéisme et d'interreligieux, pas du tout, sur la base de la parole de Dieu, quelle soit notre autorité, toute sa parole, pas un verset et demi, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir. La parole, à trois versets d'écart, il est mis. Ne favorise pas le pauvre dans le jugement. Mais ne méprise pas le pauvre dans tes jugements non plus. Oh, c'est compliqué, hein, trouver l'équilibre. Attention, lorsque nous voyons venir ces situations, ne partons pas dans les raisonnements et les argumentations au risque d'être plongés dans l'obscurité. Je rappelle Romains 1, 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, le religieux connaît des choses de Dieu, ils connaissaient Dieu, ils ont eu tous les enseignements, toutes les prophéties, etc. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ont fait de ce qu'ils connaissaient de Dieu un argument pour opprimer les autres. » Matthieu 23, « Vous faites peser des jougs que vous ne portez pas vous-même. » Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Nous avons ce danger. Si nous nous mettons à discuter des choses de Dieu au lieu de nous y soumettre, nous allons être plongés dans les ténèbres et dans l'amertume. Je peux vous dire, le Seigneur m'a parlé ces derniers jours sur une situation qui concernait ma vie. Ça va très vite. On peut être plongé dans les ténèbres. Crions à Dieu quand c'est comme ça. Voyons un frère, un aîné dans la foi, quelqu'un, on a vu marcher. Il n'est pas parfait. Il n'y a personne de parfait. Repentons-nous. Seigneur, viens m'aider. Et je peux vous dire, ça marche. Il illumine de nouveau les cœurs. Il répand l'amour. Et là, on voit clair. Il y a un chant qui dit, mon cœur était plein d'amertume, mais je n'y voyais plus rien. Ça, c'est vrai. Hein? Frères et sœurs, ne mentons pas à nous-mêmes. Et je terminerai là-dessus. Reconnaissons notre état, reconnaître son état, reconnaître son problème, reconnaître son « je ne sais pas ». Seigneur, je ne sais pas, et je ne sais pas comment me sortir de cette situation, et je ne sais pas, je vois telle situation, je vois tel frère, telle sœur, mais je ne sais pas, Seigneur. Mais je ne sais pas, Seigneur, je te prie, mais franchement, je ne sais pas, la pensée vient, on voudrait bien une solution. On voit des situations terribles, on se dit, Seigneur, mais je ne sais pas, Seigneur. Reconnaissons notre propre état, reconnaissons nos erreurs. Reconnaître notre état, c'est ouvrir la possibilité à Dieu d'intervenir. Reconnaître notre état, c'est ouvrir la possibilité à Dieu d'intervenir. Acceptons comme Job. J'avais parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. Je m'humilie. Et Dieu ouvre. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Amen.